Alors, nous sommes dans notre cinquième leçon. Nous sommes le lundi 8 mars. Et vous vous souvenez que la fois passée, nous avions largement vu déjà la première lettre aux Thessaloniciens. Nous allons la terminer, dire un mot de la deuxième aux Thessaloniciens, et puis passer à la première aux Corinthiens. Alors, dans cette première lettre aux Thessaloniciens, nous avions vu la cinq chapitres. Au premier chapitre, l'adresse, la salutation et l'action de grâce initiale, qui était globale, en premier mouvement d'action de grâce, pour la manière dont les évangélisateurs ont porté la parole à Thessalonique et dont celle-ci a été reçue. Non pas comme une parole d'homme, mais vraiment une parole qui vient de Dieu. Dans un second chapitre, Paul avait repris plus en détail, de nouveau à l'enseigne de l'action de grâce, leur conduite, ces évangélisateurs, leur conduite loyale, désintéressée, vis-à-vis des Thessaloniciens. Et Paul avait rappelé qu'il avait eu une attitude quasi maternelle et paternelle à la fois dans sa sollicitude pour les Thessaloniciens, en appelant à leur mémoire avec la formule récurrente « Vous le savez, vous vous souvenez, etc. » Puis, il avait poursuivi son récit, son rappel de ce qui s'est passé entre lui et les Thessaloniciens en rendant grâce pour la façon dont eux, cette fois-ci, ont reçu la parole qu'il leur portait. Et à cela, à travers déjà des difficultés, des tribulations nombreuses. Puis, à un moment donné, après ce temps d'évangélisation, de fondation de la communauté, je suis à la fin du chapitre 2, Paul a pu être séparé des Thessaloniciens puisqu'il descendait dans la Grèce, vers le sud, vers Corinthe, d'où il écrit sa lettre. Et pendant ce temps d'absence, il avait un grand désir de revoir les Thessaloniciens parce qu'il concevait quelques craintes. Est-ce qu'il tenait bon dans la foi? Et puis, lorsque Timothée, et là nous sommes au chapitre 3, lorsque Timothée est revenu, lui qui avait été envoyé s'enquérir des Thessaloniciens, lorsque Timothée est revenu porteur de bonnes nouvelles, à ce moment-là, eh bien, Paul laisse éclater pleinement son action de grâce pour ces bonnes nouvelles qui lui sont apportées et qui lui disent que les Thessaloniciens tiennent bon malgré les épreuves. Dans cette première partie, nous en souvenons, la tonalité était donc de l'action de grâce et déjà chacun des chapitres se terminait par la mention de la venue du jour du Seigneur qui scande la fin de chacun des chapitres de la lettre. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, que nous avions déjà largement entamée, c'est les chapitres 4 et 5 qui développent une partie plus exhortative. Au début du chapitre 4, « Nous vous le demandons, nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus, etc. » Et Paul va prodiguer son exhortation, ses conseils. De même, au chapitre 5, au verset 12, on va retrouver une même formule, « Nous vous demandons, frères, etc., d'apprécier ce qui peine pour vous, nous allons lire cela. » Mais entre ces deux moments d'exhortation à proprement parler, au verset 13, vous vous en souvenez, il y avait la considération de l'inquiétude des Thessaloniciens à propos de ce qu'il en serait des morts et de leur résurrection. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui s'endorment. » Et là, Paul avait distingué le cas de ceux qui seraient déjà endormis dans la mort au moment où le Seigneur reviendrait et quand, lors de sa venue, il emporterait dans la gloire, il relèverait, et puis le cas de ceux qui seraient encore vivants à ce moment-là et qui seraient comme en une sorte d'assomption amenés à la rencontre du Seigneur. Et Paul terminait là son verset 18 sur cette affirmation de l'espérance de la résurrection, « Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Puis nous en venons au chapitre 5, que nous n'avions pas encore vu. Après avoir affirmé le fait de la résurrection, Paul s'intéresse à son moment. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Je suis au début du chapitre 5. « Vous le savez vous-même exactement. » Comme un voleur dans la nuit, ainsi vient le jour du Seigneur. Lorsque les hommes diront « paix et sûreté », c'est alors que soudain fondera sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, en effet, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi réconfortez-vous les uns les autres et bâtissez-vous mutuellement, tout comme vous le faites. Paul, dans cette dernière expression, tout comme vous le faites, prend comme toujours acte de ce qui déjà se construit de beau pour encourager à persévérer. Réconfortez-vous, bâtissez-vous mutuellement comme déjà vous le faites. Je reprends un peu plus en détail ces versets. Paul de nouveau renvoie les Thessaloniciens à ce qu'ils savent déjà. Vous le savez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ici, Paul rejoint la tradition évangélique. C'est le Seigneur aussi qui exprime en ces termes, à travers cette image, la soudaineté du jour du Seigneur. Mais précisément, pour ne pas être désarçonné, surpris, pris en défaut, la meilleure manière de s'y préparer, c'est d'être dans l'attente de ce jour et de se bien comporter pour échapper au jugement. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Et là, Paul fait jouer un de ces paradoxes qu'il aime bien, qu'on rencontre déjà en partie chez Saint Jean pour celui-ci, le paradoxe entre la ténèbre et la lumière, la nuit et le jour. Nous ne sommes pas des fils des ténèbres ni de la nuit, mais nous sommes fils du jour et ne dormons pas comme les autres. Voyez qu'il y a ici un glissement de sens. Paul avait parlé de ceux qui se sont endormis dans la mort pour signifier le sommeil de la mort, mais ici il évoque un sommeil d'un autre type qui est celui de la léthargie spirituelle, si je puis dire. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et puis Paul là développe une sorte de panoplie, comme on dit, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Vous notez au passage la mention des trois vertus théologales. Revêtons-nous de foi, d'amour, d'espérance. Et cela, l'espérance, elle vise notre salut, parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais, on a vu souvent ces balancements, non pas ceci, mais cela, mais au contraire, à l'acquisition du salut précisément. Et cela advient par le seul Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est le sens de son don total de lui-même, lui qui est mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, cette fois-ci il revient au sens de que nous soyons vivants ou que nous soyons endormis dans la mort, eh bien, au moment où il reviendra, nous vivions ensemble avec lui. Nous avions déjà rencontré cette sorte de belle définition de la vie éternelle, c'est un être avec le ressuscité, pour toujours, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi réconfortez-vous, etc. Voilà pour ce qui est de, je ne dirais pas cette parenthèse, mais ce petit développement quand même plus doctrinal au milieu de cette partie exhortative, encore que vous sentez à la fin l'attitude qui convient pour attendre le jour du Seigneur est aussi à l'enseigne de l'exhortation, eh bien, après cela, Paul revient à une seconde série d'exhortations après avoir traité ce problème particulier mais décisif de la résurrection des morts et de son attente dans la vigilance. Deuxième série d'exhortations, comme l'intitule hostie dans sa traduction, nous vous demandons, frères, sur verset 12, d'apprécier ceux qui peinent pour vous, ceux qui sont à votre tête dans le Seigneur et qui vous avertissent. Estimez-vous tant et plus avec amour à cause de leur œuvre. Estimez-les tant et plus avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez les hommes de désordre, réconfortez les timides, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et envers tous. Réjouissez-vous toujours, priez sans relâche, rendez grâce en tout, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez tout, retenez ce qui est bon, gardez-vous de toute espèce de mal. Dans la première série d'exhortations, au chapitre 4, Paul avait invité à aller de progrès en progrès dans la sanctification corporelle, dans l'amitié fraternelle et dans le travail, chacun vacant à ses affaires. Ici, les accents de son exhortation, c'est d'abord de prendre en compte la responsabilité de la communauté vis-à-vis de ses responsables. Appréciez ceux qui peinent pour vous. On avait vu ce verbe, ceux qui sont dans le labeur apostolique en votre faveur. Ceux qui peinent pour vous, qui sont à votre tête, dans le Seigneur et qui vous avertissent. Sous-entendu, c'est pour votre bien qu'ils le font. Eh bien, estimez-les tant et plus avec amour à cause de leur œuvre. Puis, le rapport entre eux, le rapport à leurs responsables, ensuite le rapport entre eux. Soyez en paix entre vous, nous vous y exhortons, et veillez à ce qu'il n'y ait pas des fauteurs de désordre dans la communauté. Et surtout que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous, le bien interne de la communauté, et envers tous. Fin du verset 15. Toujours ce souci d'édifier aussi les personnes du dehors. Réjouissez-vous, priez, rendez grâce. Paul invite les Thessaloniciens à entrer dans ce que lui-même fait, rendre grâce et prier pour eux et se réjouir des bonnes nouvelles qu'il a reçues d'eux. Eh bien, cette fois-ci, ceci vaut comme conseil aussi pour les Thessaloniciens. N'éteignez pas l'esprit, faites preuve de discernement. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus, n'éteignez pas l'esprit. Là, on retrouve une formule trinitaire, bien marquée. Dieu le Père, le Christ et l'Esprit. Après cette seconde série d'exhortations, qui se termine dans cette perspective trinitaire, la finale de la lettre, qui consiste dans le souhait, les recommandations, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit gardé irréprochable pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours cette perspective du retour du Seigneur. Au passage, nous avons une belle définition de l'anthropologie paulinienne. Esprit, âme et corps. Pneuma, l'esprit, ça peut être l'esprit de l'homme, mais c'est surtout, au sens spirituel, l'esprit de Dieu qui l'habite et le visite. L'Esprit Saint. Pneuma, c'est le souffle. L'esprit. Âme, psyché, c'est le principe d'animation terrestre de notre être, des vivants en général. Et puis le corps, bien sûr, soma. Pneuma, psyché, soma, eh bien, ces différentes strates, si je puis dire, de l'être humain, eh bien, tout votre être, dit Paul, eh bien, que tout cela soit gardé irréprochable pour la venue du Seigneur Jésus. Ce souhait toujours de se garder irréprochable, sanctifié pour être prêt à rencontrer le Seigneur. Et il est fidèle, celui qui vous appelle, il le fera. Cette confiance dans ce que le Seigneur, au-delà de nos faiblesses, sera capable de nous acheminer prêt à sa venue. Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères d'un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. C'est sans doute l'indice d'une consigne importante, surtout si c'est la première lettre de Paul, que cette lettre soit lue à tous les frères. Bien sûr, la lettre n'arrivait qu'en un ou deux exemplaires écrits dans la communauté, et il s'agissait qu'elle soit portée à la connaissance de tous par une lecture publique. Que cette lettre soit lue à tous les frères. Et enfin, le souhait final, qui complète ce qui a été dit au verset 23, le Dieu de paix, c'est le souhait de grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. ainsi se termine cette belle première petite lettre de Paul aux Thessaloniciens. Si vous le voulez, j'en dégage quelques accents. Je vous avais mis sur la page numérotée 14 dans vos feuilles une reprise de certains termes clés. J'avais regroupé des versets où apparaissent certains termes clés d'un même registre. D'abord le registre de l'appel à la sainteté et le désir d'être gardé irréprochable par l'Esprit Saint. Je vous ai mis ces occurrences, on voit qu'elles sont nombreuses, certainement entre 15 et 20, dans cette perspective, donc ce grand souci qu'a Paul de voir les Thessaloniciens se sanctifier pour rencontrer dignement leur Seigneur. Puis je vous ai repris, si cette expression où intervient la notion de l'affliction, c'est-à-dire les persécutions que l'on peut endurer pour la cause du Seigneur et du royaume, de la bonne nouvelle. Mais à côté de cela, cette prise en compte des épreuves inévitables de la vie chrétienne, il y a aussi la tonalité bien marquée dans cette lettre de la joie, de l'action de grâce et d'une exhortation qui se veut de réconfort. Vous vous souvenez que le terme à la base de ces vocables, c'est le terme de paraclésis, le paraclet, celui qui exhorte, encourage, défend, soutient. Enfin, au bas de la page, de cette page 14, j'ai repris les deux passages où se trouvent déclinées très précisément les trois vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance. Dans notre parcours, nous avons donc d'abord évoqué les circonstances de la lettre, écrite de Corinthe lors du deuxième voyage, sans doute vers l'an 51. Nous avons vu qu'elle est écrite au moment où Timothée revient porteur de bonnes nouvelles des Thessaloniciens, et que ces cinq chapitres se laissent subdiviser en une première partie de trois chapitres qui fait mémoire de l'histoire commune des évangélisateurs et des Thessaloniciens pour rendre grâce à propos du bon accueil de la parole. Et puis une seconde partie des chapitres 4 et 5 que nous venons de terminer, qui se veut plus directement exhortative, avec en son cœur aussi un développement particulier sur la perspective de la résurrection des morts et de la manière de s'y préparer dans la foi et l'espérance vigilante. La tonalité de cette lettre, à la fois, on l'a vu, elle souligne et n'esquive pas les tribulations, les difficultés, les afflictions qui demandent persévérance dans la foi et qui font partie de la condition chrétienne. Souvenez-vous de ce passage où Paul alignait les persécutions endurées par les prophètes, par Jésus lui-même, par les chrétiens de Judée, par les Thessaloniciens et par Paul lui-même, pour bien marquer que cela fait partie de la vie chrétienne, que ces difficultés, mais en même temps, on a vu une lettre marquée par l'autre accent, qui est celui de la joie, de l'action de grâce, de l'encouragement et de l'appel à la sanctification. Quant à la manière d'écriture de Paul, puisque c'est le premier écrit que nous parcourons, on a vu que les péricopes, c'est-à-dire des passages qui forment un tout, peuvent être distingués par, des cohérences thématiques ou lexicales qui, de l'intérieur, assurent leur cohésion, et aussi parfois par des formules qui en marquent le début et la fin. On a dit parfois des formules d'inclusion. Ou bien, pour ce qui est de la division en chapitres, c'est la formule finale de chaque chapitre orientant vers le jour du Seigneur qui est littérairement structurante aussi. Nous avons vu aussi que Paul est capable d'utiliser une même expression, la nuit et le jour, dormir ou veiller, selon les contextes, dans des sens différents, de jouer un peu sur les mêmes vocables qui reviennent, mais en d'adoptant des nuances de sens différentes à leur sujet. Voilà, ceci comme manière apéritive de procéder que nous redécouvrirons encore plus tard dans la lecture d'autres écrits. Si vous le voulez, nous jetons un coup d'œil sur la lettre plus brève, la deuxième aux Thessaloniciens, et je vous invite à en avoir sous les yeux le texte que je vous en avais donné, de nouveau dans la version de Hostie. Elle commence, elle est écrite un peu plus tard. On peut se poser la question de son authenticité paulinienne. Certains se demandent si elle est de la main même de Paul, au même titre que la première. Je crois qu'on peut, même si vous allez le voir, il y a une différence d'accent qui se fait plus dramatique, plus sévère à certains égards, dans la deuxième aux Thessaloniciens. Et bien malgré ces différences d'accent, peut-être requises par des évolutions dans la situation où se trouve la communauté, davantage sujette à pression qui risque d'amener des déviances, et bien malgré ces différences de tonalité entre les deux lettres, je pense que l'on peut tenir que la deuxième aussi peut être rapportée assez directement à Paul lui-même. D'abord, son premier verset commence exactement de la même manière que la première aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain, Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, exactement la même formule que la première aux Thessaloniciens. Et puis, au chapitre 2, le deuxième verset dit ceci. Ne vous laissez pas trop vite ébranler hors de l'intelligence ni alarmer, soit par un esprit, soit par une parole, soit par une lettre qu'on dirait de nous, comme si le Seigneur, le jour du Seigneur, était déjà là. Alors, si, en l'occurrence, la lettre, la deuxième, n'était pas de Paul lui-même, ça serait assez audacieux de la part de disciples qu'il écrit de prêter à Paul ses propos, ne vous laissez pas égarer par une lettre qu'on dirait de nous. Il laisse entendre que la lettre qu'il est en train d'écrire est aussi de lui, de lui-même. Ou bien, au verset 15, je lis ceci, « Ainsi donc, frères, tenez bon et attachez-vous aux traditions dont vous avez été instruits par nous, soit de vive voix, soit par lettre. » C'est une allusion claire à la première aux Thessaloniciens. Donc ça veut dire que Paul lui-même, dans la deuxième, leur rappelle la première qu'ils ont reçue. Ou encore, au chapitre 3, le verset 17, je lis, « La salutation est de ma main à moi, Paul. C'est un signe, dans chaque lettre, j'écris ainsi. » Donc, on voit quand même que Paul tient à authentifier cette seconde lettre aux Thessaloniciens. Voilà quelques indices qui me font pencher, personnellement, pour l'authenticité paulinienne également de la deuxième aux Thessaloniciens. Et puis, on verra une continuité thématique au-delà des différences que nous allons repérer. Ceci dit, entrons, si vous le voulez, dans la lecture de la lettre. J'ai lu l'adresse, Paul Sylvain Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous grâce et paix. Et là, Paul ajoute ce qui sera la formule désormais rituelle, si je puis dire, dans la plupart de ses adresses de lettres, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Puis, l'action de grâce. Nous devons sans cesse rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il convient, parce que votre foi ne fait qu'augmenter, et que se multiplie l'amour de chacun de vous tous envers les autres. De sorte que nous-mêmes, nous nous vantons de vous auprès des églises de Dieu pour votre constance et votre foi parmi toutes vos persécutions et les afflictions que vous endurez. Preuve du juste jugement de Dieu, en vertu duquel vous serez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. N'est-il pas juste aux yeux de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent ? Et à vous les affligés, le repos avec nous, quand se révélera le Seigneur Jésus, venant du ciel, avec les anges de sa puissance, dans un feu ardent, pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux-là subiront la peine d'une perdition éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. Et on a cru chez vous à notre témoignage. Ainsi en sera-t-il en ce jour-là. Voilà l'action de grâce, mais il vous sentez, glisse à un ton un peu plus dramatique. On sent bien que Paul est inquiet de ce que peut-être il y a des tentatives de faire dévier les Thessaloniciens et qu'il s'en prend à des personnes qui affligent les Thessaloniciens. Et si les expressions qu'il utilise sont fortes, vous voyez qu'elles sont mises en italique. Elles lui viennent en fait de certains passages d'Isaïe, de Jérémie, un passage psalmique qui intervient dans un contexte où justement le Seigneur s'en prend à ceux qui refusent de croire en lui ou s'opposent à la foi d'Israël. Donc ne nous étonnons pas que la convocation de ces citations de l'Ancien Testament donne un ton sévère à ce passage. En même temps, vous voyez qu'à côté de ces accents, je dirais plus graves, il y a la perspective de la gloire, et qui va encore intervenir deux versets plus loin. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints. Toujours cette perspective du retour du Seigneur, mais qui sera, et nous le reverrons encore plus loin, à l'enseigne de sa glorification. Voilà pour cette entrée, cette action de grâce, avec cette évocation quand même d'un jugement et déjà d'un combat contre l'adversaire. Puis au verset 11, c'est pour cela que nous prions toujours pour vous. Il y a lieu de prier pour eux qui sont affligés ainsi. Nous prions toujours pour vous que notre Dieu vous juge digne de son appel et qu'il accomplisse avec puissance tout désir de bien et l'œuvre de la foi, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous. Pas seulement au dernier jour, mais dès maintenant, qu'il soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi se termine ce premier chapitre de la lettre, avec, dans la foulée de l'action de grâce, la mention de la prière de Paul pour les Thessaloniciens, de Paul et Sylvain et Timothée. Chapitre 2, nous vous le demandons, frères, pour ce qui est de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Toujours ce sujet un peu de perplexité ou d'inquiétude. Eh bien, ne vous laissez pas trop vite ébranler hors de l'intelligence, ni alarmer, soit par un esprit, soit par une parole, soit par une lettre qu'on dirait de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme d'illégalité, le fils de perdition, l'adversaire, celui qui se dresse contre tout ce qui est appelé Dieu ou est objet de culte, jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu en se donnant lui-même pour Dieu. Ne vous rappelez-vous pas qu'étant encore chez vous, je vous disais cela? Et maintenant vous savez que ce qui le retient, de façon qu'il ne se révèle qu'en son temps, car déjà le mystère de l'illégalité est à l'œuvre. Que seulement disparaisse celui qui le retient, et alors se révélera le sans-loi que le Seigneur fera périr par le souffle de sa bouche et détruira par l'apparition de sa venue. Car la venue du sans-loi s'accompagnera, selon l'activité du Satan, de toute espèce de puissance, de signes et de prodiges mensongers, ainsi que de toute la duperie de l'injustice pour ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité en vue d'être sauvés. Et voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance active d'égarement qui les fait croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais auront pris parti pour l'injustice. Nous sentons bien ici qu'il y a bien sûr en arrière-fond un combat pour faire prévaloir la vérité contre toutes les forces de mensonge, et que ici Paul déroule ce scénario de la venue du Seigneur d'abord précédé par un déchaînement du mauvais. Cela est déjà dans certaines perspectives apocalyptiques bibliques. Avant le jour du Seigneur, il y aura comme un sursaut des forces du mal. Et vous voyez qu'il y a ici comme le visage du mauvais nommé de diverses manières. L'apostasie, au verset 3. L'homme d'illégalité, littéralement hors la loi, anomia, l'illégalité. Le fils de perdition, l'adversaire, au verset 4. Le mystère d'illégalité, qui revient au verset 7. Le sans-loi, qui revient au verset 8. Et enfin, le Satan, clairement nommé au verset 9. Donc, Paul évoque comme ce sursaut de violence de l'adversaire, du Satan, hors la loi. Et un des traits, comme dit saint Jean, il est menteur depuis l'origine, c'est sa capacité de séduire, de tromper, de duper. Vous aurez remarqué tous les termes qui vont en ce sens. Que personne ne vous séduise, verset 3. Sa duperie ira jusqu'à se donner lui-même pour Dieu, pouvoir se faire passer pour Dieu, en s'asseyant dans le sanctuaire. Il y a déjà eu des statues de divinité, apostasie ultime, qui ont été mises dans le sanctuaire au IIe siècle, lors de la persécution des Maccabées. Et voilà que cette perspective d'une apostasie radicale se dresse comme un spectre. Au verset 9, toute puissance, signe, prodige, mais qui sont mensongers. La duperie de l'injustice, verset 10. La puissance d'égarement et de mensonge, au verset 11. Et face à cela, doit prévaloir la vérité. Car il est bien dit que si cette perspective d'un déchaînement du mal est un peu effrayante, en même temps, le Seigneur détruira ce mauvais par le souffle de sa bouche. C'est au verset 9. Le Seigneur le fera périr par le souffle de sa bouche et le détruira par l'apparition de sa venue. La venue du Seigneur réduira à néant aussi ses forces contraires, ses forces mensongères. C'est pourquoi ce qui prévaut à la fin, c'est la perspective du salut. Il s'agit d'accueillir l'amour de la vérité en vue d'être sauvé. Et ceux qui s'égarent, précisément, c'est parce qu'ils ne croient pas à la vérité et s'en détournent. Mais, et c'est là alors que Paul revient à une tonalité d'action de grâce, au verset 13, « Quant à nous, nous devons rendre grâce toujours à Dieu pour vous, frères, aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement en vue du salut, par l'action sanctifiante de l'Esprit et la foi en la vérité. » Cette foi en la vérité, indispensable, pour combattre les forces du mal et de tromperie, eh bien, vous l'avez, l'esprit et la foi en la vérité. Et c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour vous faire acquérir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. De nouveau, cette perspective de la gloire. Cette gloire du Seigneur à son retour, eh bien, ils y participeront. Nous y participerons. Pour faire acquérir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon. Attachez-vous aux traditions dont vous avez été instruits par nous, soit de vive voix, soit par lettre, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et que Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce réconfort éternel et belle espérance, réconforte vos cœurs et les affermisse en toute bonne œuvre et parole. Toujours, après un passage un peu rude et grave, eh bien Paul en revient à cette perspective d'encouragement, d'espérance. Et c'est ici sous la forme d'un souhait priant. De la même manière avait-il terminé le premier chapitre, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et bien ici, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, et bien, vous donne réconfort et belle espérance, vous réconforte et vous affermisse. Chapitre 3. Au reste, frères, priez pour nous. Que la parole du Seigneur poursuive sa course et soit glorifié. Vous voyez comment ce thème de la gloire du Seigneur à son retour, la gloire qui déjà habite la communauté, la gloire à laquelle nous sommes promises, et la parole du Seigneur qui doit être glorifiée comme elle est. Que la parole du Seigneur poursuive sa course et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et que nous soyons délivrés des hommes fâcheux et mauvais, car la foi n'est pas pour tous. Mais il est fidèle, le Seigneur, il vous affermira et vous gardera du mauvais. Nous avons confiance en vous et dans le Seigneur. Ce que nous vous prescrivons, vous le faites et vous le ferez. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la constance du Christ. Nous vous prescrivons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui vit dans le désordre, sans suivre la tradition que vous avez reçue de nous. Vous le savez bien vous-même, comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas eu chez vous une vie déréglée. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais au labeur et à la peine nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le pouvoir, mais nous voulions vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Aussi bien, lorsque nous étions chez vous, nous vous le prescrivions, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans le désordre sans rien faire et que toujours affairés, mais toujours affairés. À ces gens-là, nous prescrivons, nous les y exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent dans le calme pour manger un pain qui soit à eux. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de bien faire. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et pour sa confusion, ne le fréquentez pas et ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Nous sentons ici, dans ces versets, l'avertissement qu'ont des déviances possibles, non pas par rapport à la vérité de la foi, hein, ce qui est de l'ordre du mensonge, etc., mais par rapport à des déviances dans l'ordre des mœurs. Vous tenir à l'écart de celui qui vit dans le désordre, une vie déréglée, ou bien oisif, affairé sans rien faire, admirable expression, le français rend bien le jeu de mots dans le grec, affairé sans rien faire. Un peu comme dans la fable de La Fontaine, la mousse du coche qui croit que par ses bourdonnements, elle met en branle toute la machine, or elle ne fait rien elle-même, affairé sans rien faire. À ces gens-là, nous prescrivons qu'ils travaillent dans le calme pour manger un pain qui soit à eux. Donc, tenez-vous à l'écart des gens qui mettent le désordre dans la communauté. Ne le fréquentez pas. Mais quand même, avertissez-le comme un frère. Ne le regardez pas comme un ennemi. Si vous devez faire une démarche vers lui, c'est pour essayer de le ramener au Seigneur. Il y a là quand même une perspective aussi constructive. Puis la salutation finale, que le Seigneur de paix lui-même vous donne la paix continuellement et de toute manière, le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. C'est un signe dans chaque lettre, j'écris ainsi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ce double souhait de paix au verset 16 et de grâce au verset 18 qui répond au souhait de l'adresse initiale, encore et qui termine la lettre. Voilà pour une lecture brève de cette lettre. Nous sentons bien que son ton est plus grave, qu'il y a des menaces, je dirais, d'opposants ou d'égareurs, qui dans le chapitre 1 apparaissent comme causant des afflictions aux Thessaloniciens, dans le chapitre 2 risquant de les menacer dans leur attachement à la vérité de la doctrine, par toutes sortes de séductions et de mensonges, et dans le chapitre 3, les menaces quant au bon ordre, aux bonnes mœurs dans la communauté. Donc une perspective plus dramatique dans le quotidien des Thessaloniciens, plus dramatique aussi dans la perspective du jour du Seigneur, où il y a des expressions qui disent le jugement sévère qui s'exercera, et un jour du Seigneur envisagé comme précédé par un temps de déchaînement du Satan, de l'adversaire. Mais à la mesure de ces perspectives graves, il y a aussi des accents de réconfort, de certitude, de victoire en Dieu, de salut. Et dans les combats, les afflictions, les détresses, les encouragements récurrents de Paul. Et en particulier, on a vu la perspective de la gloire, non seulement finale, mais qui se manifeste déjà, qui est déjà à l'œuvre dans la diffusion de la parole de Dieu, et dans le bon accueil, la persévérance des Thessaloniciens. Voilà pour cette lettre, cette seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens. Je pourrais vous donner, mais je n'y attarde pas, des expressions où on sent que Paul puise dans l'Ancien Testament. Par exemple, un seul exemple, dans la deuxième aux Thessaloniciens, que nous venons de lire, au verset 8 du premier chapitre, il est question du jour où le Seigneur viendra avec les anges de sa puissance dans un feu ardent pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est une expression qu'on trouve en Jérémie. « Je verrai ta vengeance contre tes adversaires. » Ou un peu plus loin, un peu avant, pardon, dans Jérémie, au verset 10, « Déverse ta fureur sur les païens qui ne te connaissent pas, et les familles qui n'invoquent pas ton nom. » À ce moment-là, Jérémie s'en prend à des païens qui, non seulement ne connaissent pas le Seigneur, mais ne le connaissent pas parce qu'ils ne veulent pas le connaître, qu'ils refusent. Et c'est pour ça qu'il adopte des accents graves et sévères. Et nous voyons que Paul s'appuie sur ses arrière-fonds d'Ancien Testament. Voilà pour ces deux premières lettres de Paul. Et le temps qu'il nous reste, nous déborderons un peu de 3-4 minutes sur le temps prévu, puisque nous avons commencé un peu en retard, nous allons aborder, si vous voulez, le contexte, au moins, de la première lettre aux Corinthiens. Les deux lettres aux Thessaloniciens ont été écrites sans doute vers l'an 51, 52 peut-être pour la seconde, et nous allons passer à l'an 55-56 avec la première lettre aux Corinthiens. Et puis, il y aura d'autres lettres, Philippiens, Galates, et la deuxième aux Corinthiens viendra un peu plus tard. Mais tout cet ensemble des grands épîtres, comme on dit, nous en souvenons, va se déployer, l'écriture paulinienne, entre l'année 56 et la fin de l'année 57, début 58, où Paul écrira aux Romains. Nous reviendrons sur la séquence des lettres. Toujours est-il que la première aux Thessaloniciens, dans l'ordre chronologique, pour nous, suit les lettres, la première aux Corinthiens, pardon, suit les lettres aux Thessaloniciens. Je vous invite à voir d'abord sous les yeux la page 15 que je vous ai donnée pour cette leçon d'aujourd'hui, où nous allons commencer par mettre les choses un peu en contexte. La page 15 vous donne la feuille de route, le déroulé pour l'essentiel de ce que nous allons faire, et puis la page 16, ayons-la d'emblée sous les yeux, nous donne la carte géographique qui nous permet de suivre le périple de Paul. Nous référons, comme nous l'avons déjà fait pour les premières lettres, au texte des Actes des Apôtres. Je vous rappelle le premier séjour de Paul à Corinthe, et pendant lequel il a écrit aux Thessaloniciens. C'était lors du deuxième voyage, en Actes 18. En quittant Athènes, vous vous souvenez que Paul arrivait du nord de la Grèce, là, en descendant de ville en ville, en quittant Athènes, Paul se rendit ensuite à Corinthe. Il rencontra là un juif nommé Aquilas, qu'on va trouver mentionné au dernier chapitre de la première aux Corinthiens, un juif nommé Aquilas, avec sa femme Priscille. Paul entra en relation avec eux et s'installa chez eux, à Corinthe. Puis, il y a des oppositions de certains juifs. Paul secoue ses vêtements et leur déclare « Désormais, c'est aux païens que j'irai. » Quittant ce lieu, il se rendit chez un certain Titus, Justus, adorateur de Dieu, donc déjà proche du judaïsme, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et recevaient le baptême. Donc, naissance de la communauté chrétienne à Corinthe. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, continue de parler, même à travers certaines oppositions qui se manifestent pour toujours. » Paul y passa un an et demi à enseigner la parole de Dieu, donc c'est le premier long séjour de Paul à Corinthe, au moment où il y fonde la communauté chrétienne. Et puis, ce passage qui, vous vous en souvenez, permet de dater la lettre sous le proconsulat de Gallion en Achaïe. Eh bien, il y a une grande hostilité. On amène Paul au tribunal, mais Gallion refuse d'intervenir. Et c'est Gallion qui nous permet de dater à quel moment cela se passe. Tous se saisirent alors de Sosthène, le chef de la synagogue, le roueur de coups. C'est le pauvre Sosthène qui ramasse les coups. Ça, c'était la fondation de la communauté de Corinthe lors du deuxième voyage de Paul. Il revient du deuxième voyage. Il quitta les frères, s'embarqua pour la Syrie en compagnie de Priscille et d'Aquilas. Il passe brièvement à Éphèse. Il reviendra longuement lors du voyage suivant, le troisième. « Je reviendrai faire vous une autre fois, disait-il, si Dieu le veut. » Il prend la mer à Éphèse, débarque à Césarée, etc. Puis, le troisième voyage. C'est celui dans lequel nous sommes. C'est au cours de ce troisième voyage qu'il va écrire alors aux Corinthiens. Puis il repartit, parcourut successivement la région Galate et la Phrygie, et là, nous suivons le parcours sur la carte, elle concerne ce troisième voyage, affermissant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, dans le delta du Nil, en Égypte, était arrivé à Éphèse. Priscille et Aquila approfondissent son initiation chrétienne. Comme il avait l'intention, Apollos, de se rendre en Achaïe, Son nom est important parce qu'on va y voir une allusion directe dès le début de la lettre aux Corinthiens. Comme il avait l'intention, Apollos, de se rendre en Achaïe, donc le sud de la Grèce, voilà. Une fois arrivé, notamment à Corinthe, il fut par la grâce de Dieu d'un grand secours aux fidèles, car la force de ses arguments avait raison des Juifs en public, quand il prouvait par les Écritures que le Messie c'était Jésus. Retenons qu'Apollos, à Corinthe, est d'un grand secours à la communauté par sa capacité d'argumenter. Ce fut pendant le séjour d'Apollos à Corinthe que Paul, pour sa part, arriva à Éphèse, en passant par le haut pays. Certains des Juifs à Éphèse se durcissaient, Paul rompit avec eux. Cette situation se prolongea pendant 2 ans. Donc Paul reste longuement à Éphèse, si bien que toute la population de la Suisse, juive et grecque, put entendre la parole de Dieu. Et c'est dans la foulée de ce séjour à Éphèse, ou peut-être d'Éphèse, puisqu'il y passe 2 ans, que Paul rédige alors la première aux Corinthiens. Ce serait alors vers la fin de l'an 55. Paul prit la décision, dans l'esprit, de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe, c'est-à-dire Paul envisage de revenir à Jérusalem, mais vous savez qu'il va d'abord revisiter les chrétiens de Grèce, en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Il déclarait, quand j'aurai été là-bas, revisiter ces chrétiens, il faudra encore que je me rende à Rome. Donc dès ce moment, il forme le projet d'aller un jour à Rome. Il envoya en Macédoine Timothée et Eraste. Le séjour à Éphèse va se terminer la fameuse émeute des orfèvres d'Éphèse qui voient les bénéfices de leurs travaux d'orfèvrerie en l'honneur de la déesse Artémis fondre dès lors que les gens se convertissent et ne croient plus à Artémis mais au Christ. Alors évidemment, ils ne sont pas très contents. Et de là, Paul va passer en Macédoine et vivre un long séjour à Corinthe. Donc, le deuxième voyage est le moment où Paul séjourne une première fois à Corinthe et fonde la communauté. Et le troisième voyage est le moment où Paul séjourne longuement à Éphèse, de là rédige sans doute la première aux Corinthiens, puis repart vers la Macédoine et la Grèce. En cours de route, sans doute, rédige la deuxième aux Corinthiens, d'autres lettres, puis va séjourner une deuxième fois à Corinthe. Autrement dit, les 2 lettres aux Corinthiens que nous connaissons auraient été rédigées entre le premier séjour à Corinthe, fondateur, et le second séjour où il revient visiter les Corinthiens. C'est là pour le contexte. Un petit mot sur la ville de Corinthe, alors. Vous voyez où elle est, sur la carte là, il y a la mention de Chancrée, car c'est un des 2 ports de Corinthe. Corinthe est sur une isthme, un petit passage de terre, et a accès à 2 ports. L'un qui donne sur la mer Égée, qui sépare la Grèce de l'Asie mineure, et l'autre qui donne vers la mer Adriatique, qui sépare la Grèce de l'Italie. Donc c'est une situation favorable. À l'époque, la ville de Corinthe compte peut-être, on n'est pas sûr, mais peut-être plus d'un 500 000 d'habitants. 500 000 habitants, ce qui est considérable pour l'époque. Il n'y a que des grandes villes comme Rome ou Alexandrie qui pouvaient rivaliser ainsi. Les 2/3, semble-t-il, de la population de la ville étaient des esclaves, des serviteurs dans les familles. Elle a été détruite lors de la conquête romaine vers le milieu du IIe siècle, mais alors, un siècle plus tard, vers l'an 46, est devenue une ville nouvelle, reconstruite par César. C'est une ville pratiquement neuve, elle doit sa prospérité justement à sa situation géographique et à son double port, celui de Chancrée d'un côté et l'autre nommé le port de Lecce sur l'Adriatique. Comme toute grande ville portuaire, elle a les caractéristiques qui marquent ce genre de ville à l'époque. Une population très mêlée, de toute race, de toute religion, s'y côtoie. Il y a à côté de gens qui vivent plutôt dans la pauvreté, toute la population esclave, il y a aussi des éléments d'une vie facile, de luxe et de débauche, surtout dans un port où accostent les matelots, et donc c'est un lieu de tentation pour la moralité des chrétiens. Il y avait une expression « vivre à la corinthienne » qui voulait bien dire ce qu'elle voulait dire, qui voulait dire mener une vie déréglée. Et il y avait, du point de vue religieux, le culte d'Aphrodite aussi, en l'honneur de laquelle il y avait de la prostitution sacrée. Alors on voit dans cette ville, donc bigarrée du point de vue social, du point de vue religieux, du point de vue des mœurs, bigarrée aussi du point de vue intellectuel, car il y a diverses écoles philosophiques qui s'y côtoient, et c'est toutes ces composantes variées de la ville de Corinthe qui rendent la croissance d'une jeune communauté chrétienne digne de toute l'attention de Paul, parce que ce n'est pas facile dans un tel contexte. La communauté chrétienne, d'ailleurs, reflétait bien les composants qu'il y avait dans la ville, sans qu'il y ait eu dans la communauté chrétienne des riches et des pauvres, et des gens fortunés, mais aussi de petites gens, et qu'il va falloir travailler à l'unité de ces diverses composantes de la communauté. Que le cadre la mettait en péril du point de vue de la moralité, du point de vue de la justesse de pensée par rapport aux écoles de philosophie, du point de vue religieux, il y avait une forte éclosion des religions. J'ai signalé le culte d'Aphrodite, mais il y avait les religions abystères, comme on dit, avec des manifestations cultuelles désordonnées. Eh bien, c'est une situation, quand même de précarité, et à laquelle l'Esprit vient en aide, dit l'introduction de la Tobe, en distribuant largement ses dons exceptionnels. À situation périlleuse, dons considérables pour tenir bon. Cette lettre, je cite deux mots de l'introduction de la Tobe, cette lettre nous montre, pris en quelque sorte sur le vif, les problèmes posés par l'insertion de la foi chrétienne dans une culture païenne et les moyens utilisés par Paul pour résoudre ces problèmes. Voilà un peu le contexte dans lequel évolue la communauté de Corinthe. Une proposition de plan, je vous invite à prendre à la page 17. Ça nous donne déjà une première idée du genre de sujet qui va être abordé dans la lettre que nous lirons la fois prochaine, enfin en de larges extraits. C'est un plan proposé par François Vougain, un bon connaisseur de Paul, dans l'introduction au Nouveau Testament. Je vous avais déjà donné un de ces plans pour la lettre, la première aux Thessaloniciens. Après l'adresse et la salutation, comme d'ordinaire, la prière d'action de grâce, comme souvent également, et puis le corps de la lettre est subdivisé à l'enseigne de sous-titres qui sont bien choisis par François Vougain. Il dit d'abord les chapitres 1 à 4, l'évangile de la croix. En effet, ces quatre premiers chapitres vont largement considérer le mystère de la croix du Christ, parce que face aux divisions qui risquent de menacer la communauté, des prises de parti, moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Képhas, moi je suis pour Paul, eh bien Paul les reconduit à l'unique principe d'unité qui est le Christ, et pas n'importe quel Christ, le Christ crucifié. Et donc là, on va avoir un long développement au chapitre 1 à 4, sur la croix du Christ, et nous avons encore eu allusion à cela dans la deuxième lecture d'hier dimanche, la croix du Christ en ce paradoxe qu'elle présente d'être sagesse de Dieu alors qu'elle apparaît folie aux yeux des hommes, et d'être puissance de Dieu alors qu'elle apparaît faiblesse extrême. C'est ce que Paul développe, ce mystère de la croix, et la manière dont ce qu'il annonce et ceux qui ont à le recevoir, participent de ce mystère de contradiction. C'est les quatre premiers chapitres. Plus loin, vers le bas du Lancard, vous avez le chapitre 15 intitulé « L'évangile de la résurrection ». Vous voyez, l'évangile de la croix d'une part, l'évangile de la résurrection. C'est de fait un beau chapitre que nous lirons intégralement, où Paul s'exprime de manière plus large encore que dans les premières aux Thessaloniciens, ou la deuxième, sur la perspective de la résurrection, celle du Christ et la nôtre. Ainsi donc, on a deux ensembles, je dirais, plus dogmatiques, centrés sur le mystère pascal, qui encadrent la lettre. Les quatre premiers chapitres, d'une part, la croix, le chapitre 15, la résurrection. Vous vous souvenez que dans l'introduction générale, j'avais dit que Paul a tantôt des passages plus réflexifs dans ses lettres et des passages plus exhortatifs. Et bien ici, les passages réflexifs encadrent la lettre. Et les passages exhortatifs vont constituer le corps de la lettre qui va traiter de sujets divers. Je prends encore deux minutes pour le parcourir. Ce que Vougain intitule « Manuel d'éthique chrétienne », vous voyez, chapitre 5 à 11, et puis le culte. Donc il y a toute une série de questions de l'éthique chrétienne, de la communauté, et puis des questions qui se posent dans la manière de célébrer le culte, le repas du Seigneur. Les questions d'éthique chrétienne, il y a d'abord trois scandales qui sont énoncés. Il y a un cas d'inceste, il y a le recours aux tribunaux païens, alors même que l'on pourrait, qu'on en devrait d'abord s'accorder entre frères et sœurs chrétiens, et puis la fréquentation des prostituées. Paul prend à bras le corps trois cas de scandale pour lesquels il admoneste les Corinthiens. Et puis, il prend en considération des questions relatives au mariage et au célibat, et puis une question qui était délicate, peut-on, oui ou non, manger, comme chrétien, de ces viandes dont on sait qu'elles ont été sacrifiées à des idoles dans les temples païens. On verra la manière, les principes de discernement que Paul donne à ce sujet. Puis la question du culte, avec la tenue des femmes dans les assemblées, dans le culte, la manière dont on peut participer dignement au repas du Seigneur, et puis tout ce qui se passe pour les Corinthiens dans le discernement des charismes. Il y a beaucoup de dons, de don d'enseignement, de parler en langue, mais il s'agit de ne pas les vivre de manière un peu désordonnée et incohérente. Il doit y avoir un juste charismatisme, qu'ils ne soient pas trop échevelés, et Paul veille à y mettre bon ordre. Voilà pour une première idée de la lettre. Donc vous voyez des sujets variés, mais on verra un fil conducteur d'unification, des sujets variés qui préoccupent la communauté, et au début et à la fin, l'encadrement par le mystère pascal, dans le mystère de la croix au début, les quatre premiers chapitres, la question de la résurrection du Christ et la nôtre à la fin, avant la conclusion de la lettre. Voilà pour une première idée de son contenu. La fois prochaine, ayez bien avec vous votre Bible, votre Nouveau Testament, puisque je ne vous ai pas donné le texte de la lettre, parce qu'elle est trop longue pour cela. Mais vous pourrez le suivre dans sa version courante. Merci de votre attention.